Salut Daniel. Fin obtenu le retrait, ou plutôt le remplacement du CPE. Bah, d'un autre côté, il y a tout le reste de la loi sur l'inégalité des chances qui est maintenu avec l'apprentissage à 14 ans et le travail de nuit à 15. Puis le CNE est toujours là. Et tout ça, ça fait beaucoup moins rigoler. Enfin là, j'ai même pas le temps de pleurer puisque après les manifs, c'est les examens. Et là, j'en ai un dans moins d'une heure. Enfin, merci à tous de nous avoir soutenus et on espère quand même que la bataille va continuer. Bye bye.
Tout ça pour ça, c'est du n'importe quoi. Et le bouffon qui est toujours là pour donner les résultats des courses. Pourtant, on y avait mis du cœur quand on chantait. J'arrive à peine à me réjouir tellement que c'est grave sur le fond. Si, quand même. Un grand merci aux jeunes d'avoir fait bouger les choses et continuer. Continuons, c'est pas fini. Bon, alors quand je dis discrètement, c'était Anne de Bretagne, il paraît qu'on devine que c'est moi. Bye bye.
Salut à tous, le contrat plein d'embrouilles est mort. Vive le sommet de Lisbonne.
Bonjour, ben comme quoi il peut y avoir des bonnes nouvelles qui viennent de Matignon ou d'Elysée. Et comme quoi les décisions peuvent se prendre, peut-être pas dans la rue, mais en tout cas sous influence de la rue. Et là-bas, si je suis, vous avez contribué à ça. Plus une info, il y a eu un lapsus sympa hier matin au journal de 8h, donc hier dimanche, la journaliste vers 8h, 8h05, a commencé sa phrase en disant « Le Premier ministre, Dominique Sarkozy, tadadada. C'est peut-être intéressant de le retrouver, retrouver cet extrait pour le repasser éventuellement à l'antenne si la journaliste ne va pas être critiquée par sa hiérarchie pour avoir fait dit ça. Mais bon, je trouve ça rigolo. Voilà, Benoît, à Poitiers, bonne suite. À bientôt.
Salut Daniel, voilà, c'est Seb des Pyrénées-Atlantiques. Voilà, je viens d'écouter les infos ce matin et puis j'entends de Villepin qui dit son blabla, quoi, et puis, ben voilà, quoi, moi je dis aux jeunes, méfiez-vous, quoi, parce que c'est une victoire, mais une toute petite victoire, quoi, faut rester vigilant, voilà, parce que la bête est toujours là, et puis, on se fait gouberner, voilà, salut Merné, salut tout le monde.
Voilà, une victoire, mais on n'a pas gagné la guerre, ce n'est qu'un début, continuons le combat, restons vigilants, expectatives, prudence, enthousiasme, champagne, bonheur, il y a un peu de tout dans le répondeur de là-bas si j'y suis. Voilà, quelques échos que vous venez d'entendre. Alors, il se passe quelque chose aussi le même jour, à quelques heures d'intervalle en Italie, il semble bien que la coalition de gauche de Romano Prodi l'Unione soit en train de l'emporter sur Berlusconi, sur Berlusconi, et que voilà soit la fin. Là aussi, c'est le autre chose en Italie qui dure depuis quand même plus longtemps. Enfin, quoique, probablement la chute de la maison Berlusconi. On va avoir des échos de notre Francesco Giorgini qui est à Bologne et qui va nous donner des échos un peu de l'ambiance de la ville qui est sa ville. Vous vous souvenez, nous y étions il y a quelques années ensemble. Auparavant. Et puis on ira faire un tour parce que il se passe pas que ça dans le monde et on retrouvera aujourd'hui la rédaction du Monde diplomatique autour d'autres thèmes parce qu'effectivement il se passe d'autres choses dans le monde en Algérie, en Colombie, en Israël et les OGM, la question des OGM qui est passée un peu au deuxième plan au cours de ce week-end alors que évidemment c'est une question primordiale très importante. On en parlera avec l'équipe du Diplo. D'autres message donc sur le répondeur de là-bas si j'y suis, dont je rappelle le numéro 0156 40 37 37.
J'écoute l'émission là ce soir hein, au sujet de ce jeune là qui a un vocabulaire un peu cru mais qui a son master là de politique et je trouve qu'il est très percutant, c'est rassurant de l'entendre par rapport à ce qu'on a pu entendre hier sur l'autre émission sur le jeune là qui nous insultait et alors que moi je me bats tous les jours pour l'insertion de ces jeunes beurre, black, blanc, jaune, enfin tout ce que tu veux. Je trouve ça très rassurant d'entendre parler un jeune qui est lui aussi issu d'un milieu pas très favorable mais qui s'en sort, qui s'accroche et qui va récurer ses chiottes pour payer ses études, chose qu'énormément de gens ont faite, moi la première.
Sauf que moi, je suis blanche et que j'ai un prénom bien français, quoi. Voilà, donc merci de donner la parole aux jeunes et surtout à tous les jeunes, qu'ils soient issus de quel que soit leur milieu et quel que soit leur niveau de diplôme. Et voilà, quoi. Allez, bon courage, à plus.
Je viens d'entendre l'émission, le reportage du Vendy à la Gare du Nord. J'ai entendu Marco, qui est en master de Sciences Po. Juste deux réflexions. La première, c'est que l'université française, elle travaille pas si mal que ça quand on entend comment un étudiant master de Sciences Po est capable d'analyser les rapports dans la société. Et puis la deuxième, moi aussi je suis fils d'ouvrier, et ben ça fait plaisir de se rendre compte que la conscience de classe, elle existe toujours. Et que la classe ouvrière, elle est pas morte. Voilà. Donc salut à tous les auditeurs, salut à tous ceux qui sont en lutte contre le CPE, salut à Marco, et puis bon vent, en espérant que ce vent il emportera et le CPE et Villepin et les autres, salut.
Oui, Daniel, salut, c'est Franck, parent d'élèves en colère en Seine-et-Marne. Je viens d'écouter l'émission de ce soir qui vient de se terminer. Je voulais te féliciter pour le reportage de la Gare du Nord. C'était super. Le discours de ces jeunes, ça m'a fait chaud au cœur. Et ils ont faut aller jusqu'au bout contre cette loi sur l'inégalité des malchances. J'ai entendu aussi le message du policier qui disait qu'il désobéirait à l'ordre de taper sur les jeunes. L'ennui, c'est que les policiers dans son genre, ils sont rares. Les autres, dans leur grande majorité, ils n'ont pas de ces scrupules. D'un autre côté, on a fait un bond en arrière de plus de 60 ans au niveau social avec le CPE, CNE. C'est normal qu'on ait de la police de Pétain. À bientôt, Daniel. Salut.
Camille, une petite blanche qui fut éducatrice. C'est pour John, entre autres. Tu parles des colons et des négriers. Regarde Amistad et tu verras que ces salauds ont pu massacrer en utilisant, entre autres, la division des tribus. Beaucoup des esclaves ont été balancés par leurs frères de couleur qui visaient leur territoire ou qui voulaient se protéger ou régler des comptes. Comme tous les hommes de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. La lâcheté, la méchanceté, ça existe. Tu dis te foutre du CPE, mais sache que des petits blancs se sont dressés contre un patronat qui utilisait hommes, femmes, jeunes ou vieux ou enfants comme des esclaves des temps modernes. Lis Germinal, les raisons de la colère, tu comprendras, toi qui lis beaucoup. On les utilisait dans les mines, dans les usines, dans les guerres, sans aucun droit, car l'esclavage, c'est plus d'identité, plus de respect, mais l'horreur, l'ineffable. La burqa, la prostitution de force, quelle qu'elle soit, la possibilité de traiter l'autre comme s'il n'était rien. On le bat, on le salit, on le viole, on le torture, on le brûle, on le tue. Il y en a même qui sont morts pour qu'on soit un peu plus libre. Droit de vote, conditions de travail respectant l'individu. Des petits blancs sont aussi morts aux côtés des tirailleurs sénégalais et qui étaient aussi contre la guerre d'Algérie, contre toutes ces horreurs. Des petits blancs limousins, corses, bretons, de toutes sortes. Moi, je suis française, blanche, mais pure souche, ça n'a jamais existé. Et encore un petit mot pour Blancassis et Monsieur Philippe, je vous ai compris, le petit vichiste. Je voudrais dire que moi j'ai 33 ans et je fais partie de l'avenir de notre pays, à John, à vous, à vos enfants, et c'est vous qui me faites honte. John, il faut bouger, n'est pas dans la haine et le racisme, mais en accompagnant un mouvement qui vit aussi pour des mecs comme toi. On en a marre de toutes ces inégalités.
Oui, à vous entendre, Monsieur Mermer, on a l'impression que les voyous des banlieues sont devenus des anges. Mais c'est bizarre, vous n'allez jamais interviewer les gens à qui on a brûlé les voitures et leur demander ce qu'ils en pensent. Vous auriez bien de vous en préoccuper.
Bonjour, je viens d'entendre le message d'un monsieur qui parlait de faire passer en jugement les gens qui ont... Les gens du gouvernement de gauche dans les années 80 qui ont mis en place le regroupement familial et dans les années 70 aussi, pardon, et qui a terminé son message par émission merde, radio de merde et pays de merde. Donc je suis quand même assez révoltée et je voudrais dire à ce monsieur que si c'est un pays de merde, qu'il s'en aille. Que moi, je suis née au Maroc, je suis de papa marocain et de mère française, je suis arrivée à 19 ans au Maroc et que je suis fière d'être française. Mais quand j'entends des gens comme lui, je suis pas fière d'être française. Et bien qu'ils partent de la France, parce que la France que nous on veut faire, que nous on est en train de faire, c'est pas la sienne. La France dans laquelle moi, je crois, c'est la France de 1789, des libertés, des lumières, de Voltaire. Voilà, j'ai un peu les boules d'entendre ce genre de message et... Et ben ce monsieur, il s'en aille. On veut pas de lui. Et c'est pas nous qui partirons. Ok? Et la France, c'est aussi celle de ceux qui sont morts à Monte Cassino. C'est la France de nos grands-parents qui sont morts. Alors que eux, ils étaient sous le protectorat. Et ils sont venus défendre pour que vous, Français, vous soyez libres. Et j'ai vraiment les boules. Et voilà. Je voulais pas pleurer, mais Voilà, c'était juste pour dire que nous, on est fiers d'être français et qu'on est des Français à part entière et qu'on se battra tout le temps, toujours pour notre pays et que... Voilà.
Oui, bonjour. Alors, j'appelle du village de la place du Parlement à Rennes. C'est un village autogéré qui s'est construit par rapport au mouvement contre la loi sur l'égalité des chances. Donc, on a fait passer un communiqué de presse. Donc, je vais vous le lire. Suite à la procédure d'expulsion du village place du Parlement et l'inculpation de trois de ses membres, nous réclamons un jugement collectif. Né d'un vote en AG, le village est devenu un lieu concret d'expérimentation globale pour la société. Il s'agit d'un désir d'éveiller nos consciences et nos esprits critiques à de nouvelles possibilités de vie. L'autogestion, la réutilisation et la récupération du gâchis de la consommation de masse. Ici, chacun participe et s'exprime librement, sans condition d'âge, de sexe et de classe sociale. Ceux qui n'avaient plus la parole la récupèrent, ceux que l'on avait pris soin d'oublier réapparaissent, ceux que l'on jugeait incapables de s'intégrer à la collectivité en deviennent les acteurs. Nous refusons de céder aux tentatives d'intimidation et aux pressions psychologiques quelles qu'elles soient. Si nos mains sont sales, ce n'est que de la volonté d'embrasser une terre que nous souillons depuis trop longtemps. Et plus que d'alcool, c'est d'idées de partage et d'échange que nous sommes vivres. Toujours dans l'attente d'un véritable dialogue avec les différents acteurs, nous poursuivons notre tentative désespérée de donner un visage humain à nos vies. La porte est ouverte, les irréductibles villageois. J'espère que vous avez déjà entendu parler du village autogéré place du Parlement à Rennes. Voilà, merci, à bientôt.
Voilà, bien sûr qu'on a entendu parler des irréductibles gaulois du village autogéré de Rennes qui était installé place du Parlement à Rennes, qui était installé parce qu'ils ont été délogés ce matin, vous l'avez sans doute appris, mais voilà, il y a eu une expérience forte, enthousiaste, qui rappelle des expériences passées, hein, ceux qui avaient 20 ans dans les années, au début des années 70 doivent se sentir rajeunis ou rejoints dans leur mémoire par cette expérience. Alors, on va rejoindre Francesco Giorgini à Bologne pour avoir des échos de ce qui se passe actuellement en Italie. Après, on essaiera, si on a le temps, de retrouver l'équipe du Monde diplomatique. Mais j'ai joint tout à l'heure Chloé, la jeune femme qui parle, qui vient de parler. Ça, c'est parce que son message était de ce matin et ou d'hier, je sais pas. Et pour savoir un peu comment aujourd'hui on a réagi dans le village autogéré et autour à la fac à Rennes, suite aux événements et aux déclarations de ce matin.
Nous, on n'est pas du tout d'accord. Nous, depuis le début, on est en mouvement contre la loi sur l'égalité des chances et pas contre le CPE. Là, ils ont rien proposé d'autre. Et nous, là, le discours, enfin le gros du mouvement, c'est on continue, quoi. On n'a pas eu satisfaction. Et c'est l'augmentation des postes au concours aussi. Enfin, il y avait beaucoup d'autres revendications qui n'ont pas été entendues, en fait.
C'est une victoire ou pas, ce matin, pour vous ?
Non, absolument pas.
C'est pas une victoire ?
Ah non, du tout. Enfin, c'est une victoire dans le sens où ça y est, ça commence un petit peu à bouger, mais pour nous, c'est un début de réaction, quoi. Nous, on a demandé le retrait de la loi sur l'égalité des chances. Voilà, il y a l'apprentissage à 14 ans, le travail de nuit à 15 ans, il n'y a pas que le CPE. Donc non, et puis ils n'ont rien proposé à la place du CPE. En plus, ils ont dit qu'ils allaient plus ou moins mettre autre chose, mais on ne sait pas quoi encore, en fait. Pour nous, c'est un début de quelque chose qui pourrait ressembler à de la victoire, mais bon, on en est loin, quoi.
Ouais. Alors, il faut rappeler ce qu'était un peu ce village autogéré que vous aviez installé sur la place du Parlement à Rennes, Chloé.
Bah, ça fait partie d'une initiative des facs, comme on l'a eu dans le communiqué. Donc, simplement, c'était un lieu où on essaie de proposer des alternatives concrètes, quoi. Donc, on s'est installé avec des tentes, on a monté des tentes communes avec des palettes et des bâches. C'était un lieu d'information et de diffusion, il y avait des tracts, on essaie de distribuer beaucoup d'informations, on a organisé des débats, il y a eu une projection hier. Il y a eu du théâtre forum, il y a eu des concerts, il y a eu tout ça. Et c'était un lieu de vie, donc il y a eu un four à pain qui a été construit, donc on a fait du pain. Voilà, donc un certain nombre d'alternatives en fait qu'on voulait proposer. Et puis c'était aussi pour se réapproprier un peu le centre-ville, quoi, et sortir le débat des facultés et des écoles.
Bon, c'était une bonne expérience ?
Oui, c'était une très bonne expérience, oui.
Vous avez l'air crevé, là.
non, mais c'est parce que je sors de l'AG, je suis un peu déçue qu'on doive passer par le vote à carte étudiante, que ça va mettre beaucoup de temps, en fait.
Ouais.
Et puis c'est vrai que moi j'ai assez peur, parce que si la fac est pas bloquée, ça va être très très dur, en fait, de continuer à être mobilisé. Et j'ai très peur que le mouvement s'arrête, parce que pour moi, ce qui a été dit ce matin, il n'y a pas... Enfin, on est tous d'accord là-dessus. De toute façon, c'est là, même si tous les médias se sont acharnés à parler que du CPE, nous, je sais qu'à Rennes, dans toutes les banderoles et tout, on a même, il y a deux semaines, on a banni le mot CPE, en fait. Parce qu'on ne voulait plus, parce que le CPE fait partie d'un ensemble de lois qu'on refuse autant que le CPE, quoi.
D'accord.
Donc,
bon, continuons le combat.
Ouais, voilà. Nous, on continue, on reste mobilisés et on attend de voir plus, quoi.
Ok. Merci, Chloé.
Voilà.
Ah. là-bas.
Allô, allô, Francesco.
Est-ce que vous entendez cette musique?
Oui, on entend la musique.
Elle vient de la Piazza Verdi. Verdi comme le grand compositeur d'opéra italien. La Piazza Verdi qui est une des places les plus anciennes de Bologne. Bologne qui est la ville de Romano Prodi. La ville du monsieur qui aujourd'hui a débarrassé probablement. On ne sait pas encore, on n'est pas sûr. Mais on a de fortes, fortes chances qui a débarrassé l'Italie. Du fléau Silvio Berlusconi, du fléau qui nous agace et qui nous fait souffrir depuis 5 ans. On a 45 à 49% pour Berlusconi et 50 à 54% pour Romano Prodi. C'est-à-dire que le haut de la fourchette de Berlusconi est plus bas que le bas de la fourchette de Romano Prodi. Qui veut dire, si tu tiens dans les règles rationnelles des sondages, che de ce soir Berlusconi ne sarà più presidente du conseil en Italie e che una parentesi dure 5 ans d'un énorme conflit d'intérêt, d'un énorme tâche sulla démocratie, d'une idée de la société qui est la guerre préventive et permanente, d'un capitalisme qui est un capitalisme rapace, qui est un capitalisme de l'appropriation, et où la seule règle c'est l'intérêt personnel et l'appropriation, cette Italie-là, ce Berlusconi-là, a probablement aujourd'hui fini de gouverner, au moins pour quelques années, après on verra.
Oui, Francesco, alors à quoi ressemble à quoi ça ressemble sur la place? Est-ce que les gens sont déjà sûrs, considèrent que c'est sûr, ou préfèrent attendre les résultats?
Alors les gens qui sont ici ont l'air plutôt sûrs, ont l'air plutôt soulagés, et la chose qui est assez drôle, moi je viens de France, j'étais en France encore il y a deux jours, et j'ai passé pas mal de temps à la Sorbonne plutôt qu'à Jussieu à voir des étudiants en lutte. Et ben c'est à peu près les mêmes gens avec les mêmes habits, avec les mêmes tennis et baskets, avec les mêmes t-shirts bargelés, avec les mêmes piercings. On dirait vraiment qu'on se retrouve exactement dans la contestation contre les CPE. Et c'est ça aussi une heureuse coïncidence de se retrouver le même jour à fêter la fin du CPE et la fin de Berlusconi. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas si éloignées que ça dans ces deux fins.
Francesco, est-ce que les gens autour de toi, les jeunes autour de toi sur la place Verdi à Bologne, sont au courant de l'abrogation, enfin on ne dit pas l'abrogation, du remplacement du CPE?
Et bien sûr qu'ils sont au courant. La jeune fille qui est à côté de moi, qui, si vous voulez, je vous passe, elle parle un peu de français, elle s'appelle Livia, elle est toute jeune. Elle est de Bologne, elle fait des études d'ingénierie et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes au courant que en France aujourd'hui on fête, comme on fête en Italie, pour d'autres raisons, on fête la fin du CPE?
Oui, nous le savons et la plupart des personnes de cette place nous sont très, très heureux parce que nous espérons que c'est la fin aussi de notre contrat de précarité. Et pour nous, c'est un peu de désespérance.
Il y a, disons que une des choses qui ont fait, en tout cas, la bonne cote produit à propos de ces élections, c'est justement, une de ces propositions a été d'augmenter les charges sociales et les impositions sur les entreprises qui utilisent massivement le précariat et de les réduire pour les entreprises qui utilisent les contrats à durée indéterminée. C'est-à-dire d'utiliser la flexibilité fiscale à la place de la flexibilité des salariés. D'utiliser la flexibilité pour ajuster, mais la flexibilité dans les impôts et pas la flexibilité dans la force de travail. Et c'est une des choses qui a fait que beaucoup de jeunes, et probablement une majorité des jeunes, ont voté aujourd'hui pour Romano Prodi contre Berlusconi, qui a été celui qui, en Italie, a fait passer toute une série d'ajustements, on les appelle comme ça, mais c'est plutôt des retours en arrière du code du travail, qui ont introduit une panoplie de contrats précaires et contre lesquels aujourd'hui les étudiants et les jeunes italiens sont prêts à se battre. Et
ça va être la fête en Italie.
On attendra les derniers résultats pour avoir la certitude que la fête est bien fondée, hein, même si les fourchettes données par les instituts de sondage sont très rassurants, eh bien, et il y aura la fête dans toutes les grandes villes d'Italie et dans toutes les grandes places d'Italie. Mais il y a aussi un côté, il y a de la fête, mais il y a aussi un sort de soulagement. C'est comme si c'était la satisfaction du devoir accompli. Et c'est, parfois la joie, ça se résume à la manque de douleur. Et en ce cas, c'est en partie comme ça. C'est le fait qu'on arrête de souffrir et on n'a pas encore commencé probablement à se réjouir. Et d'ailleurs, les gens qui sont ici, qui ont une allure et un profil qu'on pourrait dire à l'œil, au risque de se tromper, mais plutôt de gauche, voire d'extrême gauche, sont sûrement là aussi pour prendre date avec le nouveau gouvernement. On se rappelle que Prodi n'est pas la gauche de la gauche, Prodi c'est un cateau de longue date, et c'est beaucoup plus Don Camillo che Peppone, pour faire des références françaises. Il y a aussi beaucoup de blagues, il y a aussi un soulagement, teinté d'ironie. Il faut se rappeler que Berlusconi avait dit ceux qui voteront pas pour moi, c'est des couillons qui pensent pas à leur intérêt. Alors il y a une blague qui circule ici, un peu graveleuse, je vous l'accorde, qui dit bon, les couillons ont gagné parce qu'ils sont sûrement plus nombreux que les têtes de nœuds.
C'est
alors,
très raffiné.
Autre chose que je voulais vous souligner, c'est que ça a été une grande participation populaire. Les dernières élections avaient voté 81% des ayants droit. Cette fois, c'est 86%. C'est un des moyens les plus hauts de l'histoire récente de l'Italie. Et c'est la démonstration que ce n'est pas été un vote contre Berlusconi ou un vote de défiance. Ce n'est pas les déçus du berlusconisme qui sont restés chez eux. C'est vraiment un refus, mais un refus actif. C'est pas un refus en restant chez soi, mais c'est un refus actif. Il faut se souvenir que cette victoire a commencé en 2001 au sommet du G8 de Gênes, qui était le premier grand moment de contestation d'un gouvernement Berlusconi qui venait juste d'être élu. Ils ont continué, tu y étais, Daniel, à la grande manifestation de 3 millions de personnes en défense de l'article 18 qui fonde la juste cause du licenciement, qui est une bataille très semblable par certain côté à celle du CPE aujourd'hui. Et on y était ensemble. Et donc c'est une victoire qui vient de loin et qui a une base populaire réelle et qui n'est pas seulement les fruits d'accords de parti ou de stratégie politique.
Ok, au revoir.
Et bonne fête aux Français, nous dit Vivian.
Ça va ?
Berlusconi, vaffanculo ! Vaffanculo, un'altra volta!
Questa è la canzone più allegra del mondo! È una canzone che possono cantare grandi e piccini, medi ed anziani, piccoli e grandi, e via, via, via! Privatizziamo il debito pubblico! Sciogliamo le camere, l'emendamento è contumacia! Questa è una canzone che non ha niente a che vedere con la politica! Chiunque si riconosca è puramente casuale. Il titolo è Quando penso a Berlusconi. È la canzone dell'allegria di vivere in Italia. L'Italia, il paese più bello del mondo. Ma vogliamo stilungarci nell'Italia? Ah, che soddisfazione lo stilungamento italiano! È la mia sensazione di quando mi sveglio la mattina a letto e dico, ma dove sono? Ma che sono veramente italiano? Non ci credo io stesso alle mie... Ma andiamo avanti! È la gioia di vivere, di essere contemporaneo dei contemporanei, di vivere nella terra! Ma andiamo avanti! Ma ve la voglio cantare più che dire! Attacca, banda!
Ah, che bellezza essere italiano, quando al mattino l'aria si improfuma, quando al barista chiedo da lontano, ha gusto un cappuccino senza schiuma, e mentre lo sorseggio mi ci veo, e penso alla Madonnina, al Colosseo, e mentre penso al ponte dei sospiri, senza volerlo vado su di giri. Penso ai bronzi di Riace e il mio corpo si compiace e mi eccito parecchio quando penso a Ponte Vecchio. Ma poi penso a Berlusconi e mi si sgonfiano i coglioni, mi si sgonfiano le palle, non so più dove cercarle. Quando penso a quel biscione mi si abbassa la pressione, l'apparato genitale c'ha un collasso verticale. Quando penso a Berlusconi il testicolo s'ammoscia, tutto il corpo mi si affloscia, ogni cosa mi fa giù e non mi si rizza più, non mi si rizza più.
Victoire, donc très probable, plus que probable, selon les sondages, à la sortie des urnes en Italie, évidemment pour la coalition, il professeur Prodi va rencontrer pas mal de difficultés maintenant, parce que c'est une coalition difficile que celle qui s'est opposée à Berlusconi, mais ce soir, bon, sans doute la fête dans pas mal d'endroits en Italie, et sans doute d'abord à Bologne, la ville de Francesco Giorgini, cette ville de tradition rouge, pas seulement pour les briques et l'architecture de la ville. Alors, c'est un peu le même sentiment qu'ici, le rapprochement est assez évident, hein. Remporter une victoire, c'est pas forcément gagner la guerre, et c'est ce qu'on va voir dans les reportages d'Olivia Gesbert. Elle était il y a quelques instants, enfin vers midi, une heure, à Sancier, à Paris, où se retrouvaient les étudiants de la coordination étudiante, qui, bien sûr, sont contents, sont heureux, mais enfin, ce n'est pour eux qu'un début. Ce n'est pour eux qu'un début. On entend partout des déclarations très calibrées, des représentants, des syndicats, des porte-paroles, etc. C'est très bien. Il nous a semblé intéressant peut-être d'entendre d'autres sons de cloche. C'était donc, je le rappelle, il y a quelques heures, 3-4 heures, à Sancier.
Je peux te demander ton prénom ?
Oui, je m'appelle Aurore.
Alors là, on est à la fac de Sancier. Vous me disiez, c'est une des facs qui est ouverte en ce moment parce que c'est les vacances. Tolbiac, c'est fermé. La Sorbonne, c'est fermé. Ce matin, vous vous êtes réunis après l'annonce de Dominique de Villepin.
En fait, on s'est réunis pendant l'annonce de Monsieur de Villepin. Mais nous, on avait, comme tout le monde était connecté sur son portable pour avoir des nouvelles, savoir ce qu'il se disait vraiment en live, pour vraiment être au courant tout de suite. Et en fait, ce qui s'est dit, c'est qu'on a fait d'accord. On n'a pas gagné. On a eu le retrait du CPE, mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on veut le retrait de la loi entière sur l'égalité des chances, dite sur l'égalité des chances, et sur la loi du CNE, parce que tout ça, déjà, le CNE, ça fait quand même 6 mois déjà qu'il est appliqué. Et nous, en fait, là, notre cheval de bataille, ça va vraiment essayer de se centrer sur le CNE, parce que le CNE est déjà appliqué et que c'est là-dessus qu'on peut mobiliser un maximum de salariés. C'est un bon début, j'ai envie de dire.
Alors, qu'est-ce qui vous dérange encore dans cette loi sur l'égalité des chances, ou dites sur l'égalité des chances ?
La loi sur l'égalité des chances, c'est une mise à bas des acquis sociaux qu'on a quand même depuis longtemps en France, quoi. Je veux dire, la professionnalisation à 14 ans, bon, certes, elle existe déjà sous une certaine forme, mais, enfin, je veux dire, balancer des gamins dans les usines dès l'âge de 15 ans la nuit, moi, je trouve pas que ce soit une très très bonne idée. Moi, je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux réformer le système éducatif, puisque, bon, on a souvent dit que la loi sur l'égalité des chances, c'était une réponse aux émeutes de novembre, donc les émeutes de banlieue. Moi, je pense que dans ces cas-là, on ferait mieux d'essayer d'améliorer les conditions d'éducation dans les ZEP et essayer de sérieusement s'attaquer au problème des ZEP plutôt que de dire bon, on va contourner le problème et offrir une solution un petit peu, c'est un petit peu de poudre aux yeux, quelques miettes qu'on leur jette. On va leur dire vous êtes pas fait pour le système éducatif, alors on va vous mettre dans la professionnalisation des 15 ans. Sincèrement, je trouve ça inhumain de contourner le problème. Pour moi, le gouvernement a essayé de contourner le problème, quoi. A essayé de paraître efficace, en fait.
Voir Dominique de Villepin ce matin à la sortie de Matignon baisser quand même un peu les yeux et dire ok, j'ai perdu, il y a une défaite, ça fait pas quand même un peu plaisir ?
Un petit peu, ouais, on se contentera pas de ça. Maintenant, qu'il ait fini par reculer, pour moi, c'est pas une surprise, parce que c'est vrai que quand on se retrouve à 2 semaines de suite, 3 millions de personnes dans les rues de France, je veux dire, c'est évident qu'il y a un moment où ça fait pression. C'est évident que ça fait pression, quoi. C'est évident, ça va bien plus loin qu'un mouvement de jeunes. Je pense que c'est une inquiétude profonde sur l'avenir, en fait. Je pense que c'est vraiment ça qui doit se dégager, quoi. Et contre la précarité en général. Parce que c'est vrai que je me suis rendu compte que la précarité, c'était quelque chose qui était en train de, pas simplement de s'installer en France, c'était quelque chose qui était déjà bien incrusté, quoi. Et que ça allait se généraliser. Les syndicats étudiants se contentent de quelques miettes, mais ils ne représentent absolument pas la majorité de la mobilisation, c'est évident.
Et demain, il y aura manif ou pas?
Ah oui, demain, il y a une sacrée manif qui se prépare. Bon, on a eu un trajet un peu réduit par la préfecture, mais je m'en fais pas trop.
Le CPE abrogé, la loi, elle est pas abrogée là sur l'égalité des chances. Cette même loi qui prévoit de passer la possibilité de rentrer en stage à 16 ans, de 16 ans à 14 ans, qui prévoit le travail de nuit possible à partir de 15 ans, qui prévoit des zones franches d'exonération sociale pour le patronat, un peu comme à Monaco ou en Suisse, quoi. Nous, ce qu'on disait de toute façon, c'était que c'était pas juste le CPE qui faisait la précarité. La précarité, elle existe déjà. Le CPE, c'était juste quelque chose qui allait l'agrandir encore. Donc c'est pas parce que, même si on s'en tient juste au CPE, c'est pas parce que le CPE est retiré que tout ce qu'on a essayé de mettre en avant pendant le mouvement social disparaît. Et d'autant plus que le CNE, il a pas été abrogé. Enfin, nous, c'est clair qu'on... Ouais, nous,
mais là, vous avez gagné quand même ce matin quelque chose, quoi. C'est 2 mois de lutte qui ont aussi abouti au retrait du CPE. C'est ce que vous demandiez principalement dans les manifs.
On a moins perdu que vendredi.
Mais après en plus, d'accord, on a réussi à faire reculer le gouvernement, mais on l'a pas fait perdre encore, puisque nous, la revendication prioritaire de toutes les assemblées générales, c'est le retrait de la loi sur l'égalité des chances. Le CPE n'est qu'une mesure de cette loi, mais on n'a pas gagné encore sur la loi. Donc la manif de demain, moi j'espère qu'il y aura encore beaucoup de monde, quoi.
Est-ce qu'il faut pas savoir s'arrêter à un moment ou à un autre aussi? Est-ce qu'une grève, ça s'arrête pas aussi à un moment ou à un autre? Il faut aussi apprendre.
C'est Thorez qui disait ça, ouais. Bah moi je pense qu'on arrête quand on a tout gagné, pas quand on a gagné. Quand on est sur une dynamique de victoire, justement, il n'y a pas de raison de s'arrêter si on peut gagner d'autres choses. Moi personnellement, ça fait en gros 4-5 ans que je m'investis un peu dans les mouvements sociaux en me sentant concerné. Bah, je me souviens avoir perdu sur la retraite, je me souviens avoir perdu sur la sécu, je me souviens avoir perdu sur les allocations chômage. On s'est fait attaquer sur le droit de grève, on s'est fait attaquer sur les 35 heures. On a perdu beaucoup de choses pour ces 4 dernières années pendant le gouvernement Chirac, Sarkozy et puis Raffarin de Villepin. Et c'est pas justement, si on est dans une dynamique de victoire, bah raison de plus pour pas s'arrêter.
Alors toi, t'étudies où?
Moi, j'étudie dans cette annexe de Paris 7. J'étudie à Javelot, qui est une annexe de Paris 7. Je suis en histoire en 3e année.
Tu habites où?
À Sancy. J'habite juste là, dans un foyer derrière, juste en face de la mosquée.
T'es un privilégié. T'habites dans le 5e.
J'habite dans un foyer, de jeunes travailleurs. J'habite pas dans un palace ou dans un duplex ou je ne sais quoi. Non. Je suis fils d'ouvrier. Je suis fils d'ouvrier mécanicien. Je suis pas Guémard, quoi. J'habite pas un 600 mètres carrés boulevard Saint-Germain. Ça, c'est sûr.
Guémard, il a fait.
Ouais, voilà.
Cumulé. TCDD, TCDI, Kunga,
Kunga, Kungi Kunga,
TCDD,
Kunga, Kungi Kunga, Kungingstri, Gingstri, Gingstri, da, Kunga, Kungi Kunga,
TCDI,
Kunga, Kungi Kunga, Kungingstri, Gingstri, Gingstri, da.
C'est des
ça nourrit le
truculo.
Cumulé, accumulé, encore cumulé.
Cumulé, accumulé, encore cumulé, c'est bon pour le
curriculum.
Cumulé, accumulé, encore cumulé.
Cumulé, accumulé, encore cumulé,
c'est bon pour le
curriculum.
Des échos à chaud à Paris, à Sancier, à Bologne, où il semble de plus en plus évident que Berlusconi a perdu. Des échos donc à chaud. Il faut se méfier de ça aussi, hein. Et bien sûr, il faut savourer ces moments où l'histoire s'accélère, comme ça, des circonstances étonnantes, hein, entre nos deux pays. Mais pour autant, ben, pendant ce temps-là, le monde continue de tourner. Et c'est justement le moment où il faut s'intéresser à ce qui se passe à côté de la photo. Hein, et voilà pourquoi on va, avec l'équipe du Monde diplomatique, se préoccuper de ce qui se passe par exemple en Israël, de ce qui se passe en Algérie, de ce qui se passe en Colombie, et puis on va revenir aussi sur l'histoire des OGM. On a ce week-end, surtout samedi, on s'est mobilisé, mais il y a eu assez peu d'écho sur cette utopie scientifique que constituent les OGM, mais qui sont aussi un péril sanitaire. Le Monde diplomatique de ce mois d'avril consacre un large dossier à ce sujet, et on va aussi, si on a le temps, avec Maurice Lemoine, se pencher sur la Colombie et sur le cas d'Ingrid Betancourt. Que se passe-t-il en Colombie ? Analyse de Maurice Lemoine avec toute l'équipe du Monde diplomatique, Dominique Vidal, Alain Grèche, Bernard Castel et donc Maurice Lemoine pour la Colombie. Voilà, on continue avec l'équipe du Monde diplomatique autour de ce numéro du mois d'avril. Et là, on va découvrir que Maurice Lemoine aime la chanson française. Et il écoute Renaud, le chanteur Renaud, qui chante des chansons engagées pour Ingrid Betancourt. Et ça a donné l'idée à Maurice Lemoine de partir en Colombie, essayer de sauver Ingrid Betancourt. C'est ça, Maurice ?
C'est à peu près ça. Bon, on va passer rapidement sur la chanson de Renaud. En fait, le problème qui est posé avec cette chanson, c'est une espèce de récupération parfois naïve ou même imbécile d'un problème qui est un problème grave, puisqu'effectivement, on part de la douloureuse histoire d'Ingrid Betancourt, qui a ému et qui émeut toujours l'opinion française, une franco-colombienne qui a été enlevée par les forces armées révolutionnaires de Colombie il y a maintenant un peu plus de 4 ans, hein, le 23 février 2002. Qui soulève une émotion légitime. Alors l'objet de cette enquête, c'est de replacer l'affaire Betancourt dans un contexte colombien et de montrer par exemple qu'en Colombie, d'une certaine manière, l'intérêt que nous portons à Ingrid Betancourt agace un peu. Ça peut paraître surprenant, on se dit pourquoi est-ce que les Colombiens seraient agacés par les pressions par exemple que fait le gouvernement français, le Quai d'Orsay, pour la libération d'Ingrid Betancourt. Et en fait, on découvre lorsqu'on interroge les Colombiens qu'effectivement ils sont agacés parce que tout simplement ils vous disent « mais attendez, il n'y a pas qu'Ingrid Betancourt ». Le problème, il est beaucoup plus grave que ça. Il est beaucoup plus sérieux, il est beaucoup plus ample. Alors, il y a, par exemple, effectivement, 60 prisonniers politiques, hein, de la guérilla, dont, ici, personne ne s'occupe. Hein. Il y a, d'un autre côté, l'association des familles de disparus, gens qui ont été touchés par l'extrême droite, par les paramilitaires. Il y a 7000 disparus en Colombie, dont on n'affiche pas les portraits sur les frontons des mairies. C'est rien d'enlever à Ingrid Betancourt que de dire ça. C'est-à-dire qu'on a une campagne un petit peu sorti du contexte colombien. Et puis le vrai problème que ça pose, au-delà du cas d'Ingrid Betancourt, c'est comment est-ce qu'on peut sortir de cette situation ? On est en Colombie dans un pays en guerre depuis 40 ans. On peut même faire remonter plus loin, hein, puisque le début, l'explosion primitive originelle, c'est 1948. C'est-à-dire que le conflit colombien se déclenche en même temps que le conflit israélo-palestinien. Hein, c'est on est donc dans un contexte de guerre, une guerre qui est terrible, une guerre qui est cruelle, dans laquelle la guérilla, les FARC en particulier, violent le droit international humanitaire, dans lequel tout le monde viole le droit international humanitaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette affaire de prisonniers, dont certains, je le rappelle, sont des soldats ou des policiers qui sont entre les mains des FARC depuis 8 ans, hein, depuis 8 ans, dans la forêt, dans la montagne, dans des conditions extrêmement difficiles? C'est un accord d'échange humanitaire. Est-ce que cet échange humanitaire est possible? Dans le juridiquement,
il faut d'abord considérer que c'est une guerre civile, ou bien est-ce que c'est des bandes terroristes, une guérilla contre un État?
Alors, on va venir sur le concept de bande terroriste précisément en parlant de cet échange humanitaire. Évidemment, les gouvernements colombiens successifs nient qu'il s'agisse d'une guerre civile. Hein, puisque depuis le 11 septembre 2001, aussi bien les FARC que l'Armée de Libération Nationale, l'ELN, la deuxième guérilla, ont été mis sur la liste des groupes terroristes. Cela étant, quand on observe le conflit colombien, sa durée, les protagonistes, par exemple les guérillas, sont des forces d'opposition qui s'opposent à l'État, qui ont un uniforme, qui ont un commandement, c'est-à-dire qui rentrent dans la définition qu'en donnent les conventions de Genève et les protocoles additionnels. Hein, c'est-à-dire qu'on a affaire à un conflit armé interne. Qu'on appelle ça guerre civile ou pas guerre civile, c'est un conflit armé interne qui est parfaitement référencé dans le droit international. L'échange humanitaire, il est possible, précisément en utilisant et en s'appuyant sur les 4 conventions de Genève et les protocoles additionnels de juin 77. Bon. Le problème, c'est que le gouvernement colombien, essentiellement, la plus grande responsabilité de l'impossibilité de cet accord humanitaire, c'est le gouvernement colombien. Pourquoi? Précisément parce que si demain il s'assoit...
Les FARC sont d'accord.
Les FARC sont d'accord, les FARC le demandent. Je ne dis pas que les FARC facilitent les choses. Hein, mais les FARC le demandent, puisqu'en fait, elles demandent en échange de leurs 60 de prisonniers politiques la libération de 500 de leurs guérilleros. Hein, c'est un échange, c'est donnant-donnant. Le gouvernement le refuse parce que permettre à la guérilla ou au mouvement d'opposition armée, parce que c'est plus qu'une guérilla, les FARC, c'est quasiment une armée, de s'asseoir en face du gouvernement, implicitement lui redonne un statut de belligérant et la sort du statut de groupe terroriste qu'on lui a conféré. Et ça, évidemment, le gouvernement colombien ne le veut pas, puisqu'il est dans une logique de guerre totale, hein, contre son axe du mal. Et moyennant quoi, on peut dire, et là, évidemment, je ne m'appuie pas uniquement sur les déclarations des FARC, qui, bien évidemment, ont des intérêts dans l'affaire, mais sur les intérêts des familles de prisonniers, sur les paroles plutôt de Monseigneur Luis Augusto Castro, qui, pour l'Église, a tenté des négociations, y compris sur les négociations qu'on a vues tenter par des gouvernements européens, pas seulement la France, l'Espagne, la Suisse, qui a une obstruction totale de la part du gouvernement colombien. Et évidemment, dans la mesure où on a des élections le 28 mai prochain, au cours desquelles il est vraisemblable, je n'arriverai pas à 100%, mais il est vraisemblable que le président Alvaro Uribe, qui est un président lié à l'extrême droite, il faut dire les choses comme elles sont, risque d'être réélu. Il est évident qu'il y a une préoccupation extrêmement grande, aussi bien en Colombie qu'ici, par rapport au cas Betancourt, sur le fait que cette absence d'accord humanitaire peut faire que ces prisonniers restent encore dans les forêts, dans les montagnes, pendant des années.
Ok, on continue. Il nous reste très peu de temps pour parler de deux sujets du numéro d'avril, mais il nous reste très très peu de temps pour parler de élection israélienne et réconciliation en Algérie. Alors, sur les conseils avisés d'Ignacio Ramonet, on va parler de l'Algérie, oui. Parce qu'il y a un lien entre ce qui se passe en Colombie et en Algérie. Oui. Alain Grège.
Oui, donc c'est un petit dossier sur l'Algérie à l'heure de la réconciliation nationale, puisque d'un côté, la guerre est finie en Algérie. Il y a eu non seulement l'amnistie, mais il y a eu une diminution très importante des actions armées. Il y a une certaine normalisation de la vie. Et en même temps, il y a une situation à la fois politique, économique et sociale qui est tout à fait préoccupante. Et donc le dossier revient sur d'abord les organisations qui se battent contre cette idée du pardon, contre cette idée de l'amnistie, qui touche, comme vous le savez, à la fois les groupes islamistes terroristes et le gouvernement, qu'on ne pourra plus poursuivre. Et donc, ces organisations se battent contre l'idée qu'on peut reconstruire la société algérienne sur l'oubli. Et ce qui est intéressant, ce que montre un des articles, c'est comment finalement des organisations, enfin humanitaires, notamment des organisations de femmes et de familles de disparus, de bords très différents, puisqu'en gros il y a les familles de disparus islamistes ou supposées islamistes qui ont disparu dans les mains de la police et de l'État, et puis il y a les victimes des opérations armées terroristes menées par un certain nombre de groupes qui conjuguent leurs forces pour essayer de revenir sur cette amnistie, même si on ne voit pas à l'heure actuelle de possibilités. Il faut dire aussi que l'expérience des sociétés qui ont été traumatisées par des conflits civils montre que l'amnistie ne dure qu'un temps. Je veux dire, on le voit en Amérique latine, il y a eu aussi une amnistie qui a été faite par les dictatures militaires pour favoriser une transition vers des solutions politiques, mais une société ne peut pas se construire sur le mensonge. Mais l'autre aspect qui est développé dans ces articles, c'est le fait que la crise politique et sociale et économique reste très importante en Algérie. Et c'est d'ailleurs d'autant plus paradoxal que les ressources de l'Algérie n'ont jamais été aussi importantes. Il y a des dizaines de milliards de dollars de ressources supplémentaires qui ont été obtenues grâce à l'augmentation du prix du pétrole, et ces ressources sont inutilisées. Il y a un papier très intéressant qui montre les raisons de cette inutilisation, parce que il y a des raisons qui tiennent à la fois au fait qu'une partie de cet argent est réellement pillée par les couches dirigeantes, et il y a aussi le fait que le pays lui-même, dans la situation actuelle, n'arrive pas à utiliser cet argent. Il y a un certain nombre de wilayas, de municipalités, etc., qui n'arrivent pas à dépenser leur budget parce qu'il n'y a pas les cadres, les infrastructures, y compris les entreprises qui pourraient développer ça. Là, on se rend compte que à quel point les ressources pétrolières peuvent être aussi un drame pour un pays, dans la mesure où elles vont permettre d'arroser un peu la population, mais ne vont pas résoudre du tout le problème du développement. Et il y a aujourd'hui une situation de crise en Algérie, d'autant plus importante que le président Bouteflika est, semble-t-il, gravement malade, qu'il n'ira sans doute pas vers un troisième mandat, et que tout le système politique est bloqué. Et l'enquête de l'Awari Yadi montre que malgré un certain désengagement, les militaires continuent à jouer un rôle important. Et on sait aussi, je veux dire, les attaques qu'il y a en ce moment contre la liberté de la presse, contre les libertés démocratiques. Donc il y a une situation à la fois qui est positive, puisqu'on est sorti d'une période qui a été quand même un très grand traumatisme pour un pays qui en a déjà connu malheureusement d'autres. Et en même temps, donc on sort de cette période, mais en même temps, il n'y a pas un pouvoir porteur d'un projet à la fois de vraie réconciliation, de rebâtir l'État, de rebâtir un consensus et une société. Et je veux dire, aujourd'hui, on est dans une grande crise qui se traduit notamment chez les jeunes par le fait que, pour la plupart, il n'y a qu'un objectif, c'est émigrer soit en France, soit aux États-Unis.
Dominique Vidal, les élections israéliennes en quelques mots.
Pour dire qu'on vérifie avec les commentaires sur le résultat de ces élections combien la couverture de l'actualité internationale devient problématique en France. Parce que visiblement, l'analyse qui a été faite par un certain nombre de médias était fausse ou très partielle. La première caractéristique qui a été très peu soulignée du résultat des élections législatives du 28 mars dernier, c'est qu'il s'agit d'un vote contre la pauvreté, contre la précarité, contre le libéralisme à l'israélienne. C'est ça qui explique l'effondrement de Benjamin Netanyahou, parce qu'il était ministre de l'économie et des finances depuis des années et qu'il a mis en œuvre les programmes néolibéraux. C'est ce qui explique le succès relatif du nouveau leader travailliste syndicaliste d'origine marocaine qui s'est battu sur ces questions-là, plus que sur d'autres. C'est ce qui explique aussi le succès inattendu du parti des retraités. Et c'est ce qui explique le succès du Chass, du parti ultra-orthodoxe dit séfarade, qui doit beaucoup à cette bataille-là. Deuxièmement, mais ça a été souligné, donc je n'y insiste pas, c'est un vote qui marque le déclin des partisans du Grand Israël, aussi bien ceux du Likoud que ceux de l'Union nationale. Et quand on dit le nouveau parti russe, Israël Beteinu, qui n'est pas moins extrémiste que le Likoud, c'est vrai, mais c'est aussi un parti russe. Et comme à la dernière élection, il y en avait deux, cette fois-ci, il n'y en avait plus qu'un, beaucoup de Russes, de Juifs, ou non-Juifs d'ailleurs, d'origine russe, ont voté pour Israël Beteinu, pas sur la base des positions extrémistes de son leader Avigdor Lieberman, mais sur la base de leur identité de russe. Troisièmement, et alors ça c'est le plus important à mon avis, on a mal vu que toute l'opération d'Ehud Olmert, qui consistait à remplacer le grand Israël par la fixation unilatérale des frontières d'Israël, Israël annexant les grands blocs de colonies et la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la moitié de la Cisjordanie, en clair, et imposant comme frontière à un éventuel État palestinien croupion cette superficie de la moitié de la Cisjordanie à l'intérieur du mur, plus la bande de Gaza, cette opération est dans une situation un peu compliquée, parce qu'en fait, Kadima n'a pas eu un grand succès, loin de là, il a eu 29 sièges au lieu des 40-45 qu'on lui promettait, et il doit donc arriver à bâtir une coalition, soit avec la gauche, ou ce qu'on appelle la gauche en Israël, et qui n'est pas favorable, en principe en tout cas, et certainement pour le Meretz et pour les partis dits arabes, à cette idée de frontière unilatérale. La gauche est plutôt pour le retour à la négociation avec Mahmoud Abbas, avec l'autorité palestinienne, avec la feuille de route du quartet, ou bien avec la droite, qui elle non plus n'y est pas favorable. Donc on est dans une situation un peu plus compliquée qu'on ne le pensait. En tout cas, et ça moi ça m'avait frappé dans l'évolution des derniers mois, on est avec un gouvernement qui sera de toute façon beaucoup plus sensible aux pressions que ne l'était Ariel Sharon. Ariel Sharon...
Quelle pression ?
N'avait aucun égard pour les pressions, ni internes, ni externes. Là, c'est un gouvernement qui sera fragile, quelle que soit la combinaison mise en place, et donc, ça n'en souligne que d'autant plus, bon, l'importance pour les pacifistes israéliens de se faire entendre, et c'est leur problème d'arriver à faire entendre leur voix, mais aussi pour l'Europe, pour la France en particulier, de revenir avec beaucoup de force dans la discussion pour dire non, aucune solution unilatérale n'est acceptable. Les seules solutions acceptables sont négociées avec les Palestiniens, avec la communauté internationale, et donc sur la base du droit international. Et autant on pouvait nous dire pendant des années, oui, mais avec Sharon, de toute façon, il n'écoute pas, là, on ne pourra pas nous dire ça. Au contraire, on est avec un gouvernement sensible, ultra sensible aux pressions, et je crois que c'est très important que les diplomaties françaises, européennes, en attendant que... on est changé de président aux États-Unis, ça c'est clair que c'est une clé importante, que ces diplomaties se fassent entendre et se fassent entendre avec beaucoup de force.
Voilà, et puis dans le monde diplomatique de ce point-ci, un papier de Frédéric Le Baron et Gérard Moget sur les révoltes contre l'emploi au rabais, qui aujourd'hui connaissent ces révoltes, un épisode qui va nous faire partager ce soir un communard. Vous savez ce que c'est un communard? C'est une goutte de cassis avec du rouge par-dessus. Voilà, ça s'appelle un communard, vous le saviez sans doute déjà. Merci à l'équipe du mensuel Le Monde Diplomatique, merci à Chloé, Olivia de Bologne, Aurore et Alban, et à tous les étudiants. Les reportages aujourd'hui, c'était Olivia Gesbert à Paris et Francesco Giorgini à Bologne. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Christian Thibodeau. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, assistée de Pascal Le, Pascal Yello et de Christophe Imbert pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37 et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.